Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast, ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Pierre-Antoine Guiboud. Il est le fondateur de Sargasse Project. Pierre-Antoine vit depuis 7 ans à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes. C'est en constatant la prolifération massive d'algues invasives, appelées les sargasses, que Pierre-Antoine a eu l'idée de développer un papier à base de sargasses. Il a mené ce projet tout seul, en faisant ses propres essais après avoir ramassé quelques sargasses sur les plages. Son histoire est passionnante et j'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute à tous! Bonjour Pierre-Antoine, tu es le fondateur de Sargasse Project, un projet dont on va parler plus en détail juste après. Peux-tu d'abord commencer par te présenter, s'il te plaît?
Ok, déjà merci beaucoup Jeanne de me recevoir avec toi. Pour parler effectivement du Sargasse Project. Alors, me concernant, j'ai un parcours qui semble peut-être un petit peu atypique, puisque je ne suis pas du tout ingénieur dans l'âme, je suis juriste financier moi de formation et breton d'origine. J'ai commencé à faire mes études à Rennes et puis j'ai continué à finaliser mes études en droit et en école de commerce à Paris. Après, bon voilà, il fallait que je trouve un travail, donc j'ai commencé à Paris, après auprès d'établissements bancaires, bref. Et puis bon, la vie parisienne, moi je suis un provincial, j'en avais un petit peu marre, donc j'ai voulu partir à l'étranger pour améliorer mon anglais. Et puis j'ai répondu à des annonces et il y avait une annonce à Saint-Barthélemy sur un poste comme le mien, donc j'étais assez surpris, mais j'ai quand même candidaté puisque je suis un amoureux de la mer. Je fais beaucoup de voiles entre autres. Et j'ai répondu, donc j'ai été pris dans ce cabinet où maintenant j'exerce depuis 8 ans et j'exerce toujours d'ailleurs en cabinet d'exercice comptable et j'ai pu justement me rendre compte depuis 2012, depuis mon arrivée en fait à Saint-Barthélemy, de l'ampleur que prenaient les sargasses dans les Caraïbes. Donc les sargasses c'est une algue qui est abrasive en fait, hein, qui s'échoue sur nos côtes et qui devient un véritable fléau en fait en environnemental, sanitaire, économique. Et là, je me suis dit c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose, faut que j'essaye de trouver peut-être des partenaires ou des gens qui sont plus à même de faire quelque chose avec ces algues-là, justement des ingénieurs peut-être, pour qu'on valorise ces algues-là, parce qu'on est capable de les ramasser, ça on sait le faire. Mais après il faut les stocker donc en séchant elles dégazent un gaz assez toxique, l'ammoniac et puis l'hydrogène de sulfate je me suis dit bon, on est obligé de faire quelque chose avec ça, donc j'ai commencé à regarder un peu les initiatives locales et nationales et régionales qui se faisaient là-dessus. Il y en a, il y a des valorisations qui commencent à voir le jour, qui sont pas forcément abouties, puisqu'on est comme on commence à être au balbutiement de cette recherche-là. Donc il y en a qui en font des semelles de chaussures, par exemple, il y en a qui en font des briques pour construire des maisons, mais ça reste très artisanal et surtout aucun recul, chimique, aucun résultat, aucune certification. Donc ça c'est plutôt l'aspect le plus grave. La majorité des valorisations, des foyers de valorisation en tout cas, des découvertes, se situent au Mexique, puisqu'au Mexique ils sont vraiment impactés vraiment très très lourdement sur ces échouements de sargasses, plus qu'aux Caraïbes encore. Nous on est vraiment les mailles du râteau.
La sargasse c'est une algue qu'on trouve principalement dans cette région ou alors on la retrouve dans d'autres endroits?
Alors la sargasse on la trouve partout dans le monde. Parce qu'il y en a 60 types de sargasses. Par contre, la sargasse qui nous concerne, nous, c'est-à-dire l'algue qui flotte à la surface, parce que c'est ça en fait le véritable problème. Elle flotte et du coup elle bouge en fonction des courants et elle vient s'échouer sur les côtes. C'est ça en fait le vrai problème. Donc bon, je suis encore une fois, je suis pas ingénieur chimiste, donc je peux pas te dire je me rappelle plus le nom latin de cette algue là, de la sargasse en question. Mais en tout cas voilà, cette sargasse, c'est celle-ci dont je parle, parce que en Bretagne par exemple, il existe des sargasses qu'on appelle communément j'ai perdu le nom, l'algue japonaise, voilà. Mais qui n'est pas plus que ça invasive, au contraire, c'est un foyer de reproduction pour les poissons, les crabes, etc. Donc pas de problème. Et elle s'échoue pas surtout sur les côtes puisqu'elle est attachée aux rochers. Là, je parle en fait des sargasses donc flottantes qui représentent 25 millions de tonnes dans le monde, avec 3 millions de tonnes supplémentaires par an. L'une des raisons, on va dire la principale des raisons, c'est la déforestation en Amazonie. Bon, c'est de notoriété publique, on sait très bien que on est 7 ou 8 milliards sur notre planète, on sera peut-être 10 milliards en 2050, on a besoin donc de terre pour nourrir toutes ces bouches-là. Maintenant, les principaux, on va dire, greniers à blé sont l'Afrique et l'Amazonie. En Amazonie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils coupent les arbres, okay, pour rendre les terres cultivables. Donc pour les rendre cultivables, ils les bombardent d'engrais, et ces engrais-là ruissellent après dans les affluents du fleuve Amazon, qui vient après se déverser en océan Atlantique. Donc tous ces engrais-là, combinés en fait au réchauffement climatique, eh ben, pour l'algue, c'est l'extase, on va dire, parce qu'elle se multiplie, elle a une faculté, justement, cette algue-là, de reproduction qui est assez exponentielle. Et c'est donc là d'où vient ces 3 tonnes, ces 3 millions de tonnes, pardon, d'algues supplémentaires. Donc ça en fait, si tu veux, une véritable valeur première, une matière première, pardon, qu'il faut absolument valoriser. Donc, et Sargasse Project, voilà, essaye à son échelle, puisque la société est relativement récente, elle a à peu près 8 mois d'existence, elle accélère très vite. Puisque nous on a trouvé une pâte, on est capable en fait de fabriquer une pâte à base de sargasse, enfin c'est même pas à base, c'est 100% sargasse, qui viendrait se substituer à la pâte à papier classique pour en faire l'un des emballages de demain, l'un des biomatériaux de demain, algosourcé à 100%. On a eu de la chance puisqu'on a reçu quelques prix avec ce projet-là. En novembre dernier, on a été lauréat de l'innovation Outre-mer Network dans la catégorie Start, qui récompense en fait les startups à fort potentiel. Et c'est vrai que ce prix-là nous a mis quand même en lumière et du coup, c'est vrai que ça accélère très vite. On sent qu'il y a une véritable demande, une attente énorme autour de ce projet-là, puisqu'on est contacté en permanence, quasi tous les jours, par des consommateurs, que ça soit des petits artisans locaux ou alors des grandes surfaces, des grosses enseignes de distribution, avoir nos emballages en fait à base de papier sargasse, qui est donc compostable, biodégradable, etc., et qui répond donc à la mouvance du moment et surtout à la sensibilisation de la population du moment, puisqu'on se rend compte qu'il y a une véritable prise de conscience qu'on peut pas continuer notre mode de consommation tel qu'il est actuellement, et voilà, et donc ça passe par des actes citoyens de tous les jours évidemment, et voilà, Sargasse Project est un des actes en tout cas qui pousse vers ça.
Est-ce que toi, en 8 ans à Saint-Barthélemy, tu as pu observer cette augmentation et cette prolifération des algues?
Alors complètement, en fait, moi je suis arrivé en 2012 à Saint-Barthélemy, en juillet 2012 précisément, et ça, c'était le début. C'est pas toute l'année, il y a une saisonnalité en fait des échouements des sargasses. Là actuellement par exemple, si jamais tu vas aux Antilles, tu vas en voir, mais pas tellement. Mais par contre, ce qui fait peur, c'est que moi pour venir ici, quand j'ai pris l'avion de Saint-Barth à Pointe-à-Pitre, c'est un petit coucou qui vole pas très haut, Et du coup, tu peux voir justement, quand tu te penches un peu sur le hublot, tu vois ces nappes de sargasses qui se forment. Et c'est là où tu te dis, ouh, ça va arriver. Et quand ça va arriver, quand ça va frapper les côtes, ça va faire mal. Puisque ça arrive, quand ça arrive en millions de tonnes, si tu veux, en milliers de tonnes, tout du moins. Et au Mexique, sur les côtes mexicaines, c'est en millions de tonnes. Donc la plage est recouverte. Et donc je parlais tout à l'heure de fléau économique, on est en plein dedans, puisque ces sargasses-là qui s'échouent dans des territoires qui vivent essentiellement du tourisme. Les Caraïbes, ça vit du tourisme. Le Mexique, ça vit du tourisme. Donc l'impact, il est immédiat. Il y a eu des chutes, des annulations de réservations pour ça, et qui sont complètement compréhensibles, puisque voilà, tu prends ta semaine de vacances, t'as acheté ton billet d'avion, tu vas avec tes enfants, ta famille, et puis c'est censé être une plage paradisiaque qui est recouverte de sargasses. Bon, ça te donne un peu moins envie d'aller te baigner. Donc il faut trouver absolument des solutions de ramassage efficient et de valorisation surtout efficace.
Comment est-ce que ça se passe sur les plages ? Est-ce qu'il y a des processus de ramassage qui sont mis en place par les autorités locales ?
Oui, alors en fait, chaque région ou chaque collectivité, municipalité a la main mise en fait un peu sur son système de ramassage. Alors soit ils le font en direct, argent public, soit ils font par délégation de services publics, donc c'est des sociétés privées en fait qui se chargent du ramassage. À Saint-Barthélemy, on est très chanceux. La collectivité a suffisamment de moyens, en tout cas, pour effectuer, lors des échouements massifs, un ramassage quotidien par camion, par petit tracteur qui ramasse ces algues-là sur la plage. Donc, visuellement parlant, on n'a pas un impact énorme. Mais après, voilà, c'est tout à fait ça. Mais après, elles sont stockées. Saint-Barth, c'est tout petit. Donc elles sont stockées sur des lieux prévus à cet effet-là. Mais bon, c'est toujours pareil. Le touriste, il les a pas sur la plage. Mais si jamais il fait un tour de voiture, il se rend compte qu'il y a des tas de sargasses sur des terrains. Et c'est pas forcément terrible non plus. Pour l'instant, il n'y a pas de solution viable, en tout cas à moyen long terme.
J'ai vu en préparant l'interview qu'il avait été testé des systèmes de barrage.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a différents types de ramassage de sargasses. Même si ce n'est pas vraiment le domaine de Sargasses Project, je peux t'en parler, parce que j'en suis directement lié. Donc, je te parlais justement de Saint-Barthélemy, leur système de ramassage à terre, on appelle ça, après échouement. Mais il existe effectivement des systèmes de ramassage de sargasses qui sont post-échouement. Donc c'est-à-dire qu'elles sont encore dans l'eau. Et là, il y a des barrages qui peuvent venir contenir justement ces sargasses-là. Ils les contiennent, mais après, il faut les ramasser quand même, derrière les barrages. Puisqu'en fait, les barrages, ça fait un peu comme un filet. Et pour la faune et la flore aussi, j'ai envie de te dire, ça peut être catastrophique. Donc c'est un système qui est pareil, qui est plutôt pas mal et qui évite le désensablement des plages, puisque les tracteurs ramassent des algues, mais ramassent du sable aussi en même temps. Donc c'est pas terrible non plus. Le système en mer, et moi je suis pour, clairement je trouve que c'est le système qui est le plus efficace, le système de barrage avec un ramassage par bateau derrière, qui me semble le mieux, notamment pour la valorisation derrière, puisqu'en fait la sargasse peut se valoriser que quand elle est propre, que quand elle n'y a pas de sable dedans, parce que sinon tu vas utiliser de l'eau douce pour la rincer. Donc on n'est pas dans l'économie circulaire comme moi je l'entends. Moi je suis capable de travailler la sargasse quand elle est dans l'eau, pas de souci, on la ramasse, le bateau peut me la livrer dans un lieu de stockage, dans un bac de rétention. On essaye d'enlever cette eau de la sargasse pour la rendre neutre, et en tout cas pour qu'on puisse la travailler un peu plus tard, et pour qu'on soit moins soumis aux aléas de la périodicité pardon, des échouements, pour qu'on puisse voilà, travailler à peu près toute l'année. Voilà, c'est les deux grands systèmes, en tout cas, de ramassage qui existent actuellement.
Et si on revient sur Sargasse Project, toi, ton idée, c'est de valoriser ces algues. Comment est-ce que tu t'y es pris ? Est-ce que tu as ramassé des morceaux d'algues sur la plage et tu as essayé de fabriquer ton papier ?
Alors, c'est une très bonne question. Donc, je te parlais un peu de mon parcours un peu atypique tout à l'heure. Je ne sais pas si on a trop le temps, mais je vais te raconter un peu l'origine du projet. Moi, en fait, depuis mon très jeune âge, je suis aussi entrepreneur. J'ai aussi une casquette entrepreneuriale, un peu dans l'économie, justement, verte, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, essayer d'avoir un bilan carbone le moins fort possible. Ce projet-là, il est né de fin 2018, exactement, par l'achat, donc là, rien à voir, tu vas me dire, par l'achat d'une marque de cirage et produits d'entretien française, qui était très connue dans les années 60, qui s'appelle Cygne Noir, que j'ai repris parce que j'aime bien les marchés de niche, et je voulais reprendre cette marque-là de cirage qui m'intéressait, et je voulais remettre le cirage et les produits d'entretien au goût du jour, les dépoussiérer un peu de cette image un peu désuète sur un marché éco-responsable, justement. De trouver une formulation qui soit éco, parce qu'il n'y a rien de plus nocif, entre guillemets, dans la fabrication que le cirage. Et pourtant, je suis persuadé qu'il existe des moyens de faire quelque chose d'éco-responsable en ayant des chaussures ou un parquet qui soit brillant sans forcément utiliser du pétrole. J'avais déjà l'idée à l'époque d'intégrer de la poudre de sargasse dans ces produits-là, parce que j'étais intéressé par l'aspect un peu luisant, un peu plastifié de cette algue-là. Et j'étais persuadé qu'elle pouvait justement donner une valeur ajoutée à nos produits avec peut-être... Bon, c'était une idée, j'en savais rien, je voulais quand même essayer. Donc on a travaillé avec un laboratoire français qui est spécialisé justement dans la fabrication, dans la formulation en tout cas de cirage. Et malheureusement, le laboratoire avec qui on travaillait nous a dit que c'était pas possible d'intégrer cette poudre de sargasse à notre formule. Ça faisait un peu comme l'huile et le vinaigre, si tu veux, ça se mélangeait pas vraiment. Bon, évidemment, j'étais très déçu, mais je voulais pas abandonner l'idée d'utilisation de la sargasse. J'étais persuadé qu'on pouvait en faire une valorisation vraiment pérenne et utile. Et du coup, m'est venue l'idée d'en faire un packaging. Un packaging pour nos produits. Donc là, je me suis dit, mais attends, la sargasse, il y a de la cellulose. Ça peut être assimilé à du bois, il y a de la cellulose aussi, la pâte à papier, ça, c'est à base de cellulose, c'est un végétal marin, pourquoi pas. Et là, c'est là où je me suis renseigné justement de plus en plus sur justement les valorisations qui étaient en train de naître autour de cette sargasse, et je me suis rendu compte que sur le papier 100% sargasse, ça n'existait pas. Puisque moi je me suis placé en tant que client en fait au début. J'ai demandé, tiens, est-ce que vous êtes capable de me fournir un papier 100% algosourcé et en l'occurrence à 100% sargasse. Ah non, c'est compliqué, on sait pas trop, c'est le début, bon, ok. Et là je me suis dit, bon bah, allez, j'ai commencé à vraiment me documenter très très sérieusement sur ces algues-là. Une fois que j'ai englouti tous mes bouquins et tout ce que j'ai pu regarder et m'informer, j'ai effectivement été une plage de Saint-Barth qui s'appelle Anse d'Écaille et qui est un peu l'entonnoir à sargasse de Saint-Barth. Donc j'ai pris mon sac en plastique, et là je me suis dit que c'était la dernière fois que j'allais prendre mon sac en plastique justement pour aller les ramasser. Et je l'ai rempli de sargasse. Et puis bon, bah, j'ai commencé à faire... je les ai ramenés à la maison. J'ai commencé à faire ma popote dans la cuisine. Ma femme était très contente d'ailleurs. Cuisine que j'ai un peu ruinée d'ailleurs, on peut le dire. Bon, maintenant je me suis délocalisé depuis sur la terrasse, donc il y a moins de conflits, on va dire. Mais voilà, le premier essai, je suis arrivé à faire quelque chose de suffisamment solide et flexible. Donc j'ai fabriqué d'abord une pâte, mais cette pâte-là, il fallait que je lui donne une utilité. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans le papier, parce que je voulais montrer aux gens ce qu'on était capable de faire. Un peu comme une feuille de papier. D'ailleurs, je vais te montrer parce que j'en ai apporté une. Je me suis dit, bon, on peut améliorer le process, c'est sûr. Et là, en fait, j'ai amélioré le process. J'ai fait ça tout seul. Alors c'est vrai qu'il y en a plein qui me disent, mais attends, c'est pas possible. Nous, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, on n'a pas trouvé, etc. Bon, entre nous, je pense que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et c'est ce qui a sans doute marché. Je ne suis pas du tout scientifique, et peut-être que ça a été une force pour moi, justement, parce que je me suis peut-être moins pris la tête, finalement, sur la formule que j'ai pu trouver, en fait. Donc j'ai amélioré ce process-là, et j'ai recommencé, en fait, la bêtise que j'avais pu faire au début. Et je me suis rendu compte que c'est cette bêtise-là qui rendait la formule efficace, en fait. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je tiens quelque chose. Je vais lui donner une utilité à cette feuille de papier. Et j'en ai fait un sac tout bête pour mettre des pommes, entre autres. Et cette photo-là, je l'ai mise sur les réseaux sociaux, en fait, sur Facebook, qui marche très fort à Saint-Barthélemy. Un groupe qui s'appelle Acheter, Vendre, Échanger, voilà, c'est que tout le monde connaît là-bas. Et ça a eu un véritable effet auprès de la population forcément locale qui est directement impactée. Et je pense que tout le monde a dû se dire, en fait, tout le monde se plaint, mais en fait, il y a des trucs à faire, on peut faire quelque chose. Et c'est vrai que ça, Sargasse Project a commencé vraiment là. Pour finir un peu sur l'histoire de la naissance du projet, en tout cas.
Une fois que tu as réussi à créer ce papier, comment est-ce que tu peux être sûr qu'il n'y a pas de produits chimiques qui restent ? Tu les as évoqués auparavant. Est-ce que tu as dû te rapprocher d'un laboratoire pour mener des études, des recherches ?
Alors c'est que des super questions. Parce qu'effectivement, voilà, moi je suis arrivé à faire mon papier et mon sac. Bon, très bien. Mais il fallait que je me fasse valider quand même tout ça. Et donc du coup, je me suis rapproché effectivement d'un laboratoire qui s'appelle le CEVA. Je suis obligé de... En Bretagne. Je suis un peu chauvin, je suis breton aussi. Voilà, je voulais me rapprocher de... Puis bon, les algues en Bretagne, on connaît aussi, avec le fléau des algues vertes, entre autres. Et donc, je me suis rapproché du CEVA. En fait, c'est le Centre d'études de valorisation des algues, qui est un laboratoire qui bénéficie de 40 ans d'expérience... qui est reconnu vraiment dans ce domaine spécifique, et je voulais vraiment aller dans un laboratoire qui est spécialisé justement dans les algues, dans la valorisation des algues. Et là, ce qui est super, c'est que je dépends en fait d'un département biomatériaux, donc c'est en plein dedans, qui est sous la coupe d'un monsieur qui s'appelle Renan Pierre, qui est vraiment exceptionnel, et qui m'aide beaucoup sur justement l'analyse de cette pâte à sargasse, des échantillons, exactement. Et tout à fait. Donc j'envoie en fait régulièrement par la poste des échantillons qui sont analysés mais pas simplement. C'est-à-dire que ce département-là aussi m'oriente, me dit bon, là il y a peut-être des molécules qu'on pourrait utiliser dans les effluents de ta matière. On peut peut-être les utiliser dans le cosmétique, dans d'autres voies auxquelles je n'avais même pas pensé moi. Donc c'est plus qu'un labo, c'est un conseil aussi, et ça c'est très précieux. Encore une fois, je connais pas grand chose, même si je suis très curieux de nature, donc je m'intéresse beaucoup, mais voilà, j'ai besoin d'être accompagné, et j'ai besoin d'avoir une certification aussi que cette pâte là puisse être commercialisable. Après, ça dépend de l'utilité qu'on en fait. Donc tu parlais du gaz et des métaux lourds aussi qui sont présents dans cette algue là alors la réponse, elle est oui, bien sûr, il y a des métaux lourds et du gaz qui s'échappe justement quand elle est en décomposition. Quand elle est décomposition, cette algue-là. Mais voilà, moi quand je la travaille, le gaz ne s'échappe pas finalement parce que elle n'a pas le temps en fait de dégazer cette algue là, ou alors elle dégaze et après moi je la stabilise et je la travaille. Donc pour moi le gaz c'est pas vraiment un problème. Et quand elle pourrit en fait. Ça fait un, tu sais, ça sent un peu comme l'œuf pourri si tu veux, un peu comme le soufre. Mais ceci dit c'est important parce que ça a des répercussions sur la santé immédiate de ceux qui habitent. En tout cas près des échouements, et je pense à Marie-Galante, en tout cas en Guadeloupe, où ils sont lourdement impactés aussi. Où maintenant on assiste même à des délocalisations finalement de gens qui déménagent à cause de ce genre de phénomène. Donc ça a vraiment un fort impact. C'est exactement ça. Excuse-moi, je ne sais plus de quoi on parlait. Ah oui, du labo. Et donc ce labo... Salobo m'accompagne, me certifie effectivement cette formule. Donc ça dépend effectivement de l'utilité que je veux lui donner à cette pâte-là. Pour les métaux lourds, par exemple, notre pâte, il se trouve qu'elle dégrade les métaux lourds. Donc c'est assez exceptionnel. C'est pareil, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, mais ça marche. On parle beaucoup de l'arsenic, etc. Donc là, on est en deçà des seuils acceptables, en tout cas, sur l'utilisation qu'on veut en faire. De la pâte à papier classique. Par contre, pour l'alimentaire, c'est un vrai sujet. Parce que là, les normes sont forcément un peu plus drastiques. Donc là, on est encore en phase de test, d'échantillonnage. On a un métaux qui nous pose un peu problème, c'est le plomb. Parce que le plomb, c'est un métaux qui ne se dégrade pas, contrairement aux autres métaux. Mais c'est un métaux qu'on peut rendre inerte. Par voilà un procédé qui est tout à fait acceptable, mais voilà qui est un peu plus long à mettre en route. Donc on est encore en phase de test. Justement, j'étais hier matin au CEVA, que j'ai pu rencontrer pour la première fois physiquement, parce qu'on se voyait beaucoup par Skype, etc., avec la distance, mais par téléphone, mais j'étais jamais rendu vraiment physiquement aller les voir. Donc voilà, j'ai pu me rendre compte, surtout parce que j'aime bien moi voir où les gens travaillent, ça c'est important pour moi, leur labo, voilà, avoir un contact physique avec eux, et puis échanger justement sur les possibilités, j'ai envie de te dire quasiment infinies de cette pâte à sargasse qui peut être utilisable dans beaucoup de domaines. Effectivement, moi je me suis consacré sur l'emballage. Mais on sait par exemple qu'avec 10 barres de pression, cette pâte-là est aussi dense que du bois. Donc on peut en faire un matériau aussi. Le cosmétique, c'était quelque chose auquel, j'avoue, j'avais absolument pas pensé. Et ça s'utilise de plus en plus. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas dénué de sens du tout. Donc voilà.
Est-ce qu'eux, ils arrivent à faire un parallèle avec l'algue verte ou l'algue rouge
céramique? Alors, pour l'instant, pas vraiment. Alors, chaque algue est vraiment différente. C'est comme une, on va dire, des fleurs. Tu as différents types de fleurs. Tu as la même souche, si tu veux. Voilà, c'est différentes caractéristiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, on parle beaucoup d'une molécule qui s'appelle l'alginate, justement, qui est contenue dans les algues, qui rend un peu ces algues-là un peu visqueuses. C'est un peu voilà, exactement, tout à fait. Et c'est une propriété qui est très importante pour, par exemple, les cosmétiques. Et cette alginate, voilà, elle est en fonction des types d'algues, elle est peu ou pas ou beaucoup présente, si tu veux, dans les algues. Donc, c'est, en fonction du type d'algue, tu peux faire des utilisations différentes. Bon, il se trouve que la sargasse en contient pas mal. Donc, c'est quelque chose de plutôt bien, et c'est sans doute ce qui a aussi donné le lien à ce papier, à cette pâte à papier que j'ai pu créer. Attends, je vais te la montrer quand même.
Les deux échantillons que j'ai sous les yeux, il y en a un qui est assez fin, un autre qui est un peu plus épais, type carton. Tu parviens vraiment à avoir différentes textures, différentes matières et épaisseurs uniquement en utilisant cette algue qu'est la sargasse.
Exactement, c'est tout à fait ça. J'utilise l'algue à 100%. Je rajoute rien d'autre dedans. Je rajoute pas d'autres fibres. D'autres fibres, hein, tout simplement. Parce que j'étais pas capable de le faire déjà à la base. Et je me suis rendu compte que ça servait à rien. Qu'on pouvait arriver à faire quelque chose de magnifique papier type un peu parchemin que tu as devant les yeux, avec une épaisseur effectivement différente. Donc j'ai voulu me placer sur le carton, un peu plus cartonné et puis un peu plus parchemin, on va dire, pour le premier, un peu plus fin. Et montrer aussi qu'on pouvait blanchir complètement naturellement ces algues, puisqu'en fait la couleur d'origine c'est marron forcément, et avec un procédé complètement naturel on peut blanchir ces feuilles que tu as devant toi. On pourra jamais obtenir un papier, alors sauf avec des procédés peut-être chimiques, mais je suis pas justement dans ce process là, du papier blanc classique sur lequel tu as l'habitude d'écrire.
Et donc pour toi concrètement, quelles sont les étapes à venir?
Ouais, les prochaines étapes, c'est... alors, il y a beaucoup de R&D, forcément. Je pourrais, si tu veux, commercialiser ma pâte maintenant, puisque je sais qu'elle contient plus de 50% de cellulose, donc elle rentre complètement dans la catégorie du papier carton. Donc, pour nous, c'était la très bonne nouvelle qu'on a eue, justement... juste après avoir remporté le prix Innovation Outre-mer. On n'avait pas encore justement cette validation là, et j'ai pu l'expliquer sur scène en même temps, donc c'était assez incroyable. Donc maintenant on sait ça, donc ça c'est très important, puisqu'on on rentre pas dans une nouvelle catégorie de nouveaux biomatériaux avec un cahier des charges énorme ou qui mettrait 5 ans de développement, énormément d'argent. Là on rentre dans la catégorie du papier carton, donc le cahier des charges, il est connu, il y a juste à suivre les lignes. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Après, j'ai pas envie de lancer ce produit-là tout de suite. J'ai envie qu'on ait toutes les petites validations, le contact alimentaire, la possibilité d'utiliser dans différents types de... d'industrie, on va dire, industrie pharmaceutique, pourquoi pas, cosmétique, j'en parlais tout à l'heure, papier, pour que l'industriel derrière, parce que moi je me place dans un business, dans un système B2B, business to business, mes clients, ça sera des industriels qui seront eux capables de fabriquer les produits finaux. Moi je ne suis pas fabricant de papier et je ne le serai jamais, sauf si effectivement il y a vraiment une demande énorme. Et auquel cas j'aurais vraiment une volonté personnelle de monter une petite fabrique de papier ou d'emballage, en tout cas aux Antilles. Je ne sais pas encore où exactement, mais moi mon business c'est de vendre cette matière première, comme si tu veux la pâte à papier classique est vendue aux industriels. Mais voilà, ça peut être aussi d'autres supports. Donc j'ai envie de mettre tout ça vraiment, de verrouiller tout ça avant de pouvoir... rentrer dans une production vraiment, on va dire, conséquente et satisfaire les industriels qui déjà, alors c'est assez incroyable parce que cette pâte-là, elle n'est pas encore créée, qu'elle est déjà vendue, on va dire, quasiment, donc c'est assez exceptionnel. Mais voilà, encore une fois, tu l'as dit, l'équipe autour de ce projet-là est très réduite, je prends mon temps, j'essaye de choisir la bonne direction à prendre, en tout cas, et de... Voilà, d'amener surtout ce projet-là où moi, à l'origine, j'ai voulu le mettre en place. Et non pas l'inverse, si tu veux. Donc, c'est pour ça, je prends mon temps. Mais 2020 sera sans doute l'année de la commercialisation, c'est quasiment certain.
Est-ce que tu t'es rapproché des organisations et des autorités locales à Saint-Barthélemy pour voir comment envisager un système de ramassage ?
Saint-Barthélemy, le ramassage des sargasses, c'est 1,5 million tous les ans. C'est énorme parce qu'effectivement, c'est un budget pour l'île de Saint-Barth. Donc les gens ne se rendent pas compte, mais c'est quand même un budget très important parce que Saint-Barth, c'est une petite île, hein, encore une fois. Donc 24 km², ça fait. Donc il y a à peu près 8 000 tonnes de sargasses qui s'échouent tous les ans à Saint-Barth. Et donc voilà, pour un coût de ramassage annuel d'1,5 million. Donc c'est énorme. Les collectivités... qui ramassent ces algues-là, donc il y a des subventions évidemment d'État, etc. Mais il n'empêche que c'est quand même un gros budget. Et un projet comme Sargasse Project, il le voit, mais il le voit, on va dire, comme du pain béni. Parce qu'ils se disent, bon, alors là, ça va nous coûter tant, ok, très bien, mais par contre, on va pouvoir la valoriser, donc on va pouvoir la revendre. Et on va peut-être retomber, quelque part ça va nous coûter encore des sous, mais voilà, peut-être un peu moins. Bon, actuellement, par exemple, à Saint-Barthélemy, on est en discussion pour la mise en place d'une unité de pilote de fabrication de pâtes à Sargasses. Le territoire est très exigu, donc c'est très compliqué de trouver un terrain pour ce genre de choses. Si jamais ça se fait pas à Saint-Barth, ça se fera ailleurs, c'est pas très grave. Mais bon, en étant à Saint-Barth, forcément, j'aimerais bien que ça se fasse là-bas. La collectivité sera pas prête à me donner cette sargasse, parce qu'elle lui coûte 1,5 million. Mais voilà, sur un prix raisonnable, sur lequel on peut s'entendre, eux, ils ont tout intérêt à nous donner cette sargasse-là pour que nous, après, on l'expédie. Après, aux industriels, qui sont, eux, encore une fois, capables de la transformer en produits finaux. Donc, c'est du win-to-win, en fait. Ça leur coûte de l'argent, oui, mais au moins, ils la stockent pas, quelque part, et ils vont avoir des touristes qui vont arriver et qui vont, justement, être même contents d'avoir des emballages à base d'algues qui sont abrasives et qui viennent chez eux, si tu veux.
J'imagine qu'il y a un réseau hôtelier très présent, très implanté sur cette petite île.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, bon, du coup, tu as mis le doigt sur une chose importante, parce que ce projet-là, si tu veux, donc il a à peu près 8-9 mois d'existence. Pour commencer, il m'a fallu un peu de sous. Notamment, ce qui coûte cher, c'est la R&D. La R&D et puis les déplacements. Parce que, effectivement, en étant outre-marin, et d'ailleurs, je te remercie parce que ça donne un petit coup de lumière sur les innovations outre-marines qui sont formidables aussi. Et pour l'instant, ce projet, il est totalement autofinancé par des dons privés sous forme de sponsoring, on va dire, par justement des entreprises locales de Lille et notamment des hôtels. Qui sont forcément très intéressés par ça, puisque eux ils sont directement impactés par le remplissage de leur hôtel au niveau des touristes. Donc ils voient forcément ce projet-là d'un très bon œil. Donc ils ont compris qu'il fallait effectivement jouer le jeu et puis en tout cas m'aider dans toutes ces recherches, dans tous ces déplacements que je peux faire pour justement promouvoir cette solution qui est attendue au tournant, en tout cas de plus en plus, et bon, ça me fait évidemment extrêmement plaisir de pouvoir en discuter avec toi, justement de faire connaître ce projet. Une communication positive, c'est énorme autour de ce projet, puisque des initiatives comme ça, il y en a beaucoup en Outre-mer et en métropole sans doute aussi, mais voilà, faut en parler, faut montrer qu'elles existent et surtout faut montrer qu'elles sont viables. Puisqu'on a, là je fais un peu une digression, mais on a un gros souci actuellement, je trouve, sur les initiatives un peu économie circulaire, un peu green, où généralement on nous rabâche, ouais mais c'est super ce que tu fais, mais ton BP, ton business plan, il est pas rentable. On entend souvent ça sur les projets un peu verts. Eh ben, je suis désolé de te dire, mais les projets verts sont beaucoup plus rentables qu'on ne le pense. Quand on parle de rentabilité, on parle de quoi ? On parle d'une rentabilité court terme. Alors effectivement, un investisseur qui va mettre de l'argent dans ce projet-là, il ne va pas récupérer 5-10% au bout de 2 ans. Mais la rentabilité, pour moi, c'est une rentabilité économique, bien sûr, mais une rentabilité environnementale surtout. C'est ça qu'on oublie. C'est-à-dire qu'il ne faut plus raisonner à court terme, il faut raisonner à long terme. Et là, on se rend compte qu'il y a un véritable déclic qui est en train de se créer autour de mon projet, évidemment, mais autour de d'autres projets. On parlait tout à l'heure du Summit Change Now qui a lieu il n'y a pas longtemps. Il y a des innovations incroyables. J'ai rencontré des gens qui faisaient des briques à base d'écailles de poisson. Enfin, des trucs qui sont... la matière première, elle est là, elle est devant nos yeux. Et il y a juste à se creuser un peu les méninges et à la rendre commercialisable. Et effectivement, de faire un business plan qui tienne la route, mais c'est possible, puisque la matière première ne coûte rien ou ne coûte pas cher du tout. par exemple, pour en revenir, et qu'elle ne puise pas dans nos ressources, bien sûr, elle est là, elle est à disposition. Donc il faut la prendre, et nous, on, être humain, on est doté d'une intelligence, il faut s'en servir, pour justement la mettre à contribution de notre planète, et de la rendre plus, en tout cas, moins polluée qu'elle ne l'est actuellement, et de consommer, on va dire, plus intelligemment. C'est un travail de sape. Ça passe par des actes citoyens, ça passe par les institutions. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut persévérer parce que de toute manière, on ira. Donc vaut mieux y aller en douceur plutôt que se prendre un mur dans la tête.
Je pense vraiment qu'il faut changer la façon dont on pense, où on a tendance à opposer écologie et économie en permanence.
On est bien d'accord. Moi, je suis justement, mon métier de cœur, c'est de conseiller les entreprises. Je suis convaincu, j'ai pas 40 ans d'expérience, mais j'en ai bientôt une petite quinzaine d'années quand même. On peut allier, c'est une certitude, écologie et économie. Voilà.
Tu disais en tout début d'interview que tu pratiques la voile. Est-ce que toi, tu as pu constater une augmentation de la pollution dans les océans ? Est-ce que tu es confronté à ces plastiques, microplastiques ?
Alors, le plastique, oui, on en voit dans les mers, bien sûr. J'en vois, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'à Saint-Barth, on est un petit peu préservé quand même. Parce que, encore une fois, on est un petit caillou au milieu de l'Atlantique. Bon, au milieu de plein d'autres îles, mais qui sont quand même assez éloignées. Donc les déchets plastiques, je pense, n'ont pas le temps de vraiment s'échouer, si tu veux, sur nos côtes. Tu sais, le plastique, c'est un peu transparent. Donc quand tu navigues, on voit des bouteilles, etc. Mais je pense qu'on ne voit pas tout ce qu'on devrait, ce qu'il y a dans la mer. Mais effectivement, il y a une pollution certaine. Sur les côtes, on voit toutes sortes de déchets désastreux qu'il faut effectivement ramasser. Donc il y a des campagnes de ramassage qui se font à Saint-Barthélemy assez régulièrement.
Au niveau du recyclage, qu'est-ce qui est mis en place sur l'île de Saint-Barthélemy ?
Au niveau du recyclage, si tu veux, c'est effectivement une toute petite île. On fait beaucoup brûler. On fait beaucoup brûler nos déchets. Il y a un tri qui est fait avec le verre, par exemple, mais pas au niveau du plastique. C'est un parti pris, c'est un double tranchant, c'est compliqué à expliquer. En fait, Saint-Barth, c'est une île au niveau de la gestion des déchets qui est hyper à la pointe, tout de même, parce qu'en fait, on utilise la valeur calorifique du plastique brûlé pour en faire de l'eau potable. Parce qu'à Saint-Barth, l'eau, ça vient de la désalinisation de l'eau de mer. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu en circuit fermé, si tu veux. On utilise l'énergie, justement, des déchets brûlés pour alimenter l'usine de désalinisation. Donc on peut considérer que c'est un système plutôt vertueux. Mais évidemment, je ne te parle pas du gaz qui est brûlé et qui est rejeté dans l'atmosphère. Bien sûr que c'est pas du tout écologique. C'est pas... En tout cas, je pense que c'est une solution qui est, en tout cas pour l'instant, qui marche bien. Il y a une gestion des déchets qui va... Parce que la population de Saint-Barth croît, donc ça va devenir un vrai sujet aussi dans les années à venir. À la gestion des déchets, puisque maintenant on n'a plus le droit d'exporter nos déchets comme on le faisait avant sur les îles voisines. Non, maintenant chaque île doit traiter ses déchets. C'est une très bonne chose, hein. Attention, je trouve que c'est très bien, parce que maintenant c'est en gros, tu produis, tu consommes, et tu te débrouilles pour tes déchets. Alors, évidemment, pas question de les enterrer ou les mettre dans la mer. Donc on doit trouver des solutions. Voilà, je pense que la collectivité va faire son affaire là-dessus. Mais pour revenir à la pollution des océans, ouais, elle existe. Je ne peux pas dire le contraire, elle existe.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions que je voulais aborder avec toi. Ça serait sympa que tu puisses partager d'autres initiatives qui ont lieu en Outre-mer et qui ont retenu ton attention.
Oui, alors bien sûr, j'ai surtout rencontré beaucoup d'initiatives très intéressantes au concours Innovation Outre-mer en novembre 2019, en novembre dernier. Où là, en fait, c'était assez extraordinaire parce que forcément, tu rencontres à Station F des acteurs du changement, on va dire positif, qui viennent de Polynésie, de La Réunion, de tous les dom-toms, en fait, finalement, des Antilles, forcément, de Saint-Pierre et Miquelon, enfin bref, voilà. Et alors, des initiatives, oui, il y avait une initiative que je trouvais très intéressante. Qui s'appelle Sidot Fenua, qui est porté par, j'ai plus son nom en tête, qui vient de Polynésie justement, et qui a un système d'application sous forme de jeu, où en fait, toi par exemple, tu prends ton mobile. Tu peux être acteur du changement en replantant des arbres ou en replantant des coraux virtuellement en contrepartie. Donc tu donnes un petit des sous, tu vois, mais tu visualises vraiment où est-ce que tu plantes ton arbre et où est-ce que tu plantes tes coraux, etc. Donc ça, je trouve ça sympa parce que tu donnes pas, tu vois, des sous comme ça. Et c'est concret derrière. Les gens, ils ont besoin de concret parce que donner de l'argent... c'est bien gentil, mais les gens, ils ont envie de savoir de ce qu'il y a derrière. Donc ça, je trouvais ça sous forme ludique. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce projet, enfin, ce que je trouve bien, en tout cas, dans ce projet, c'est que ça impacte directement les jeunes. Puisque c'est quelque chose un peu sous forme de jeu éducatif, si tu veux. Donc, et je pense que la nouvelle génération... d'ailleurs, je suis assez bluffé parce qu'elle est hyper, hyper consciente des enjeux justement dont on vient de parler aujourd'hui. Voilà, ça passe par cette sensibilisation-là. Parce que c'est eux, je suis persuadé que ça va être eux qui vont dire. Moi, je vois déjà mes filles de 4 ans, elles me disent « Papa, attention, faut pas jeter ça par terre, etc. » On se rend compte que voilà, il y a une véritable prise de conscience des plus jeunes autour de ça. Bon, je suis positif de nature, mais là, je suis sûr que ça va, dans les années à venir, il va y avoir un changement concret, et en tout cas, j'espère aussi de nos dirigeants plus haut et de nos institutions. Il faut pas baisser les bras.
Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et puis, comme toujours, j'indiquerai tous les liens utiles dans la barre de description. À très bientôt.
Bah, écoute, merci beaucoup, Jeanne, et merci surtout de mettre aussi en lumière toutes ces belles initiatives.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille ou vos collègues. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire découvrir le podcast et à conquérir de nouveaux auditeurs. N'hésitez pas également à me laisser des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou celle d'Ico Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt!
Hello, hello, hello.
This is Dolly and Pandora from the Hilo bringing you a Stay Cast message to remind you to follow the government's advice and stay at home if you can.
Stay at home, protect the NHS and save lives. And while you're staying at home, let us recommend a couple of podcasts to pass the time. I love The Week Unwrapped.
And I can't get enough of Fortunately with Fee and Jane, full of wit, wisdom, silliness and charm. I also like working out which one of us is the Jane and which one of us is the Fee.
There are so many great podcasts to choose from, so plug into an Audible treat and stay home, keeping you and everyone else safe.